faute d'exercer, selon les vœux de la nature, l'activité donnée à la femme, et par la nécessité où elle était de la dépenser, cette vieille fille l'avait transportée dans les intrigues mesquines, les caquetages de province et les combinaisons égoïstes dont finissent par s'occuper exclusivement toutes les vieilles filles. Birotteau, pour son malheur, avait développé chez Sophie Gamard les seuls sentiments qu'il fut possible à cette pauvre créature d'éprouver, ceux de la haine qui, latent jusqu'alors, par suite du calme et de la monotonie d'une vie provinciale dont pour elle l'horizon s'était encore rétréci, devait acquérir d'autant plus d'intensité qu'ils allaient s'exercer sur de petites choses et au milieu d'une sphère étroite. Birotteau était de ces gens qui sont prédestinés à tout souffrir parce que, ne sachant rien voir, ils ne peuvent rien éviter. Tout leur arrive. « Oui, il fera beau, » répondit après un instant le chanoine qui parut sortir de sa rêverie et vouloir pratiquer les lois de la politesse. Birotteau, effrayé du temps qui s'écoula entre la demande et la réponse, car il avait pour la première fois de sa vie pris son café sans parler, quitta la salle à manger où son cœur était serré comme dans un étau. Sentant sa tasse de café pesante sur son estomac, il alla se promener tristement dans les petites allées étroites et bordées de bois qui dessinaient une étoile dans le jardin. Mais en se retournant, après le premier tour qu'il y fit, il vit sur le seuil de la porte du salon Mademoiselle Gamard et l'abbé Troubert plantés silencieusement, lui les bras croisés et immobiles comme la statue d'un tombeau, elle appuyée sur la porte persienne. Tous deux semblaient, en le regardant, compter le nombre de ses pas. Rien n'est déjà plus gênant pour une créature naturellement timide que d'être l'objet d'un examen curieux. Mais s'il est fait par les yeux de la haine, l'espèce de souffrance qu'il cause se change en un martyr intolérable. Bientôt, l'abbé Birotteau s'imagina qu'il empêchait Mademoiselle Gamard et le chanoine de se promener. Cette idée, inspirée tout à la fois par la crainte et par la bonté, prit un tel accroissement qu'elle lui fit abandonner la place. Il s'en alla, ne pensant déjà plus à son canonicat, tant il était absorbé par la désespérante tyrannie de la vieille fille. Il trouva par hasard, et heureusement pour lui, beaucoup d'occupations à Saint-Gatien, où il y eut plusieurs enterrements, un mariage et deux baptêmes. Il put alors oublier ses chagrins. Quand son estomac lui annonça l'heure du dîner, il ne tira pas sa montre sans effroi, en voyant 4 heures et quelques minutes. Il connaissait la ponctualité de Mademoiselle Gamard, il se hâta donc de se rendre au logis. Il aperçut dans la cuisine le premier servi desservi. Puis, quand il arriva dans la salle à manger, la vieille fille lui dit d'un son de voix où se peignait également l'aigreur d'un reproche et la joie de trouver son pensionnaire en faute. « Ah, il est 4h30, monsieur Birotteau. Vous savez que nous ne devons pas vous attendre. » Le vicaire regarda le cartel de la salle à manger et la manière dont était posée l'enveloppe de gaz destinée à le garantir de la poussière, lui prouva que son hôtesse l'avait remonté pendant la matinée en se donnant le plaisir de le faire avancer sur l'horloge de Saint-Gatien. Il n'y avait pas d'observation possible. L'expression verbale du soupçon conçu par le vicaire eût causé la plus terrible et la plus justifiée des explosions éloquentes que Mademoiselle Gamard sut, comme toutes les femmes de sa classe, faire jaillir en pareil cas. Les mille et une contraintes et contrariété qu'une servante peut faire subir à son maître ou une femme à son mari dans les habitudes privées de la vie, furent devinées par Mademoiselle Gamard, qui en accabla son pensionnaire. La manière dont elle se plaisait à ourdir ses conspirations contre le bonheur domestique du pauvre prêtre portèrent l'empreinte du génie le plus profondément malicieux. Elle s'arrangea pour ne jamais paraître avoir tort. 8 jours après le moment où ce récit commence, L'habitation de cette maison et les relations que l'abbé Birotteau avait avec mademoiselle Gamard lui révélèrent une trame ourdie depuis 6 mois. Tant que la vieille fille avait sourdement exercé sa vengeance et que le vicaire avait pu s'entretenir volontairement dans l'erreur en refusant de croire à des intentions malveillantes, le mal moral avait fait peu de progrès chez lui. Mais depuis l'affaire du bourgeois remontée, de la pendule avancée, Birotteau ne pouvait plus douter qu'il ne vécût sous l'empire d'une haine dont l'œil était toujours ouvert sur lui. Il arriva dès lors rapidement au désespoir, en apercevant à toute heure les doigts crochus et effilés de mademoiselle Gamard, prêts à s'enfoncer dans son cœur. Heureuse de vivre par un sentiment aussi fertile en émotions que l'est celui de la vengeance, la vieille fille se plaisait à planer, à peser sur le vicaire comme un oiseau de proie plane et pèse sur un mulot avant de le dévorer. Elle avait conçu depuis longtemps un plan que le prêtre abasourdi ne pouvait deviner et qu'elle ne tarda pas à dérouler en montrant le génie que savent déployer dans les petites choses les personnes solitaires dont l'âme inhabile à sentir les grandeurs de la piété vraie s'est jetée dans les minuties de la dévotion. Dernière mais affreuse aggravation de peine. La nature de ses chagrins interdisait à Birotteau, homme d'expansion, aimant à être plein et consolé, la petite douceur de les raconter à ses amis. Le peu de tact qu'il devait à sa timidité lui faisait redouter de paraître ridicule en s'occupant de pareilles niaiseries. Et cependant, ces niaiseries composaient toute son existence, sa chère existence, pleine d'occupations dans le vide et de vide dans les occupations. Vie terne et grise où les sentiments trop forts étaient des malheurs, où l'absence de toute émotion était une félicité. Le paradis du pauvre prêtre se changea donc subitement en enfer. Enfin, ses souffrances devinrent intolérables. La terreur que lui causait la perspective d'une explication avec mademoiselle Gamard s'accrut de jour en jour. Et le malheur secret qui flétrissait les heures de sa vieillesse altéra sa santé. Un matin, en mettant ses bas bleus chinés, il reconnut une perte de 8 lignes dans la circonférence de son mollet. Stupéfait de ce diagnostic et cruellement irrécusable, il résolut de faire une tentative auprès de l'abbé Troubert pour le prier d'intervenir officieusement entre mademoiselle Gamard et lui. Et se trouvant en présence de l'imposant chanoine qui, pour le recevoir dans une chambre nue, quitta promptement un cabinet plein de papiers où il travaillait sans cesse et où ne pénétrait personne, le vicaire eut presque honte de parler des taquineries de mademoiselle Gamard à un homme qui lui paraissait si sérieusement occupé. Mais après avoir subi toutes les angoisses de ses délibérations intérieures que les gens humbles, indécis ou faibles, éprouvent même pour des choses sans importance, il se décida, non sans avoir le cœur grossi par des pulsations extraordinaires, à expliquer sa position à l'abbé Troubert. Le chanoine écouta d'un air grave et froid, essayant, mais en vain, de réprimer certains sourires qui peut-être eussent révélé les émotions d'un contentement intime à des yeux intelligents. Une flamme parut s'échapper de ses paupières lorsque Birotteau lui peignit, avec l'éloquence que donnent les sentiments vrais, la constante amertume dont il était abreuvé. Mais Troubert mit la main au-dessus de ses yeux par un geste assez familier aux penseurs et garda l'attitude de dignité qui lui était habituelle. Quand le vicaire eut cessé de parler, il aurait été bien embarrassé s'il avait voulu chercher sur la figure de Troubert, alors marbrée par des taches plus jaune encore que ne l'était ordinairement son teint bilieux, quelques traces des sentiments qu'il avait dû exciter chez ce prêtre mystérieux. Après être resté pendant un moment silencieux, le chanoine fit une de ses réponses dont toutes les paroles devaient être longtemps étudiées pour que leur portée fût entièrement mesurée, mais qui, plus tard, prouvait aux gens réfléchis l'étonnante profondeur de son âme et la puissance de son esprit. Enfin, il accabla Birotteau en lui disant que ces choses l'étonnaient d'autant plus qu'il ne s'en serait jamais aperçu sans la confession de son frère. Il attribuait ce défaut d'intelligence à ses occupations sérieuses, à ses travaux et à la tyrannie de certaines pensées élevées qui ne lui permettaient pas de regarder aux détails de la vie. Il lui fit observer, sans avoir l'air de vouloir censurer la conduite d'un homme dont l'âge et les connaissances méritaient son respect, que jadis les solitaires songeaient rarement à leur nourriture, à leur abri au fond des Thébaïdes, où ils se livraient à de saintes contemplations, et que de nos jours le prêtre pouvait par la pensée se faire partout une Thébaïde. Puis, revenant à Birotteau, il ajouta que ces discussions étaient toutes nouvelles pour lui. Pendant 12 années, rien de semblable n'avait eu lieu entre Mademoiselle Gamard et le vénérable abbé Chapeloud. Quant à lui, sans doute, il pouvait bien, ajouta-t-il, devenir l'arbitre entre le vicaire et leur hôtesse, parce que son amitié pour elle ne dépassait pas les bornes imposées par les lois de l'Église à ses fidèles serviteurs. Mais alors la justice exigeait qu'il entendît aussi Mademoiselle Gamard. Que d'ailleurs il ne trouvait rien de changé en elle, qu'il l'avait toujours vue ainsi, qui s'était volontiers soumis à quelques-uns de ses caprices, sachant que cette respectable demoiselle était la bonté, la douceur même, qu'il fallait attribuer les légers changements de son humeur aux souffrances causées par une pulmonie dont elle ne parlait pas et à laquelle elle se résignait en vraie chrétienne. Il finit en disant au vicaire que, pour peu qu'il restât encore quelques années auprès de mademoiselle, il saurait mieux l'apprécier et reconnaître les trésors de cet excellent caractère. L'abbé Birotteau sortit confondu. Dans la nécessité fatale où il se trouvait de ne prendre conseil que de lui-même, il jugea mademoiselle Gamard d'après lui. Le bonhomme crut, en s'absentant pendant quelques jours, éteindre, faute d'aliments, la haine que lui portait cette fille. Donc, il résolut d'aller, comme jadis, passer plusieurs jours à une campagne où madame de Listomère se rendait à la fin de l'automne, époque à laquelle le ciel est ordinairement pur et doux en Touraine. Pauvre homme, mais il accomplissait précisément les vœux secrets de sa terrible ennemie, dont les projets ne pouvaient être déjoués que par une patience de moine. Mais ne devinant rien, ne sachant point ses propres affaires, il devait succomber comme un agneau sous le premier coup du boucher. Situé sur la levée qui se trouve entre la ville de Tours et les hauteurs de Saint-Georges, exposé au midi et entouré de rochers, la propriété de madame de Listomère offrait les agréments de la campagne et tous les plaisirs de la ville. En effet, il ne fallait pas plus de 10 minutes pour venir du pont de Tours à la porte de cette maison nommée l'Alouette. Avantage précieux dans un pays où personne ne veut se déranger pour quoi que ce soit, même pour aller chercher un plaisir. L'abbé Birotteau était à l'Alouette depuis environ 10 jours, lorsqu'un matin, au moment du déjeuner, le concierge vint lui dire que M. Caron désirait lui parler. M. Caron était un avocat chargé des affaires de Mademoiselle Gamard. Birotteau ne s'en souvenait pas, et ne se connaissant aucun point litigieux à démêler avec qui que ce fût au monde, quitta la table en proie à une sorte d'anxiété pour chercher l'avocat. Il le trouva modestement assis sur la balustrade d'une terrasse. L'intention où vous êtes de ne plus loger chez Mademoiselle Gamard étant devenue évidente, dit l'homme d'affaires. Monsieur, s'écria l'abbé Birotteau en interrompant, je n'ai jamais pensé à la quitter. Cependant, monsieur, reprit l'avocat, il faut bien que vous soyez expliqué à cet égard avec mademoiselle, puisqu'elle m'envoie afin de savoir si vous restez longtemps à la campagne. Le cas d'une longue absence n'ayant pas été prévu dans vos conventions peut donner matière à contestation. Or, mademoiselle Gamard, entendant que votre pension... Monsieur, dit Birotteau surpris et interrompant encore l'avocat, je ne croyais pas qu'il fût nécessaire d'employer des voies presque judiciaires pour... Mademoiselle Gamard, qui veut prévenir toute difficulté, dit M. Caron, m'a envoyé pour m'entendre avec vous. Eh bien, si vous voulez avoir la complaisance de revenir demain, reprit encore l'abbé Birotteau, j'aurai consulté de mon côté. Soit, dit Caron en saluant. Et le ronge-papier se retira. Le pauvre vicaire, épouvanté de la persistance avec laquelle mademoiselle Gamard le poursuivait, rentra dans la salle à manger de madame de Listomère en offrant une figure bouleversée. À son aspect, chacun de lui demandait « Mais que vous arrive-t-il donc, monsieur Birotteau ?» L'abbé, désolé, s'assit sans répondre tant il était frappé par les vagues images de son malheur. Mais, après le déjeuner, quand plusieurs de ses amis furent réunis dans le salon devant un bon feu, Birotteau leur raconta naïvement les détails de son aventure. Ses auditeurs, qui commençaient à s'ennuyer de leur séjour à la campagne, s'intéressèrent vivement à cette intrigue si bien en harmonie avec la vie de province. Chacun prit parti pour l'abbé contre la vieille fille. « Mais comment ?» lui dit Manon Listomère. « Ne voyez-vous pas que clairement que l'abbé Troubert veut votre logement ?» Ici, l'historien serait en droit de crayonner le portrait de cette dame, mais il a pensé que ce même auquel le système de cognomologie de Sterne est inconnu ne pourrait pas prononcer ces trois mots « Madame de Listomère » sans se la peindre noble, digne, tempérant les rigueurs de la piété par la vieille élégance des mœurs monarchiques et classiques par des manières polies, bonne mais un peu roide, légèrement nasillarde, se permettant la lecture de la nouvelle Rise, la comédie et se coiffant encore en cheveux. Mais il ne faut pas que l'abbé Birotteau cède à cette vieille tracassière, s'écria M. de Listomère, lieutenant de vaisseau, venu en congé chez sa tante. Si le vicaire a du cœur et veut suivre mes avis, il aura bientôt conquis sa tranquillité. Enfin, chacun se mit à analyser les actions de mademoiselle Gamard, avec la perspicacité particulière aux gens de province, auxquels on ne peut refuser le talent de savoir mettre à nu les motifs les plus secrets des actions humaines. « Vous n'y êtes pas !» dit un vieux propriétaire qui connaissait le pays. « Il y a là-dessous quelque chose de grave que je ne saisis pas encore. L'abbé Troubert est trop profond pour être deviné si promptement. Notre cher Birotteau n'est qu'au commencement de ses peines. D'abord sera-t-il heureux et tranquille, même en cédant son logement à Troubert, j'en doute. Si Caron est venu vous dire, ajouta-t-il en se tournant vers le prêtre ébahi, que vous aviez l'intention de quitter mademoiselle Gamard, sans doute mademoiselle Gamard a l'intention de vous mettre hors de chez elle. Eh bien, vous en sortirez bon gré mal gré, ces sortes de gens ne hasardent jamais rien et ne jouent qu'à coup sûr. Ce vieux gentilhomme, nommé monsieur de Bourbonne, résumait toutes les idées de la province aussi complètement que Voltaire a résumé l'esprit de son époque. Ce vieillard sec et maigre professait en matière d'habillement toute l'indifférence d'un propriétaire dont la valeur territoriale est cotée dans le département. Sa physionomie, tannée par le soleil de la Touraine, était moins spirituelle que fine. Habitué à peser ses paroles, à combiner ses actions, il cachait sa profonde circonspection sous une simplicité trompeuse. Aussi, l'observation la plus légère suffisait-elle pour apercevoir que, semblable à un paysan de Normandie, il avait toujours l'avantage dans toutes les affaires. Il était très supérieur en œnologie, la science favorite des Tourangeaux. Il avait su arrondir les prairies d'un de ses domaines aux dépens des laits de la Loire, en évitant tout procédé avec l'État. Ce bon tour le faisait passer pour un homme de talent. Si, charmé par la conversation de M. de Bourbonne, vous eussiez demandé sa biographie à quelques tourangeaux, oh, c'est un vieux malin, eût été la réponse proverbiale de tous les jaloux. Il en avait beaucoup. En Touraine, la jalousie forme, comme dans la plupart des provinces, le fond de la langue. L'observation de M. de Bourbonne occasionna momentanément un silence pendant lequel les personnes qui composaient ce petit comité parurent réfléchir. Sur ces entrefaites, Mademoiselle Salomon de Villenoy fut annoncée. Amenée par le désir d'être utile à Birotteau, elle arrivait de Tours, et les nouvelles qu'elle en apportait changèrent complètement la face des affaires. Au moment de son arrivée, chacun, sauf le propriétaire, conseillait à Birotteau de guerroyer contre Troubert et Gamard, sous les auspices de la société aristocratique qui devait le protéger. Le vicaire général auquel le travail du personnel est remis, dit Mademoiselle Salomon, vient de tomber malade et l'archevêque a commis à sa place M. l'abbé Troubert. Maintenant, la nomination au canonicat dépend donc entièrement de lui. Or, hier, Mademoiselle de la Blottière, l'abbé Poirel a parlé des désagréments que l'abbé Birotteau causait à Mademoiselle Gamard, de manière à vouloir justifier la disgrâce dont sera frappé notre bon abbé. L'abbé Birotteau est un homme auquel l'abbé Chapeloud était bien nécessaire, disait-il, et depuis la mort de ce vertueux chanoine, il a été prouvé que les suppositions, les calomnies se sont succédées. Vous comprenez ? Bon, Troubert sera vicaire général, dit solennellement M. de Bourbonne. Voyons, s'écria Mme de Listomère en regardant Birotteau. Que préférez-vous, être chanoine ou rester chez Mademoiselle Gamard ? Ben, être chanoine, fit un cri général. Eh bien, reprit Mme de Listomère, il faut donner gain de cause à l'abbé Troublet et à Mademoiselle Gamard. Ne vous font-ils pas savoir indirectement par la visite de Caron que si vous consentez à les quitter, vous serez chanoine, donnant, donnant ? Chacun se récria sur la finesse et la sagacité de Madame de Listomère, excepté le baron de Listomère, son neveu, qui dit d'un ton comique à M. de Bourbonne « J'aurais voulu le combat entre la Gamard et le Birotteau. » Mais pour le malheur du vicaire, les forces n'étaient pas égales entre les gens du monde et la vieille fille soutenue par l'abbé Troubert. Le moment arriva bientôt où la lutte devait se dessiner plus franchement, s'agrandir et prendre des proportions énormes. Sur l'avis de Madame de Listomère et de la plupart de ses adhérents, qui commençaient à se passionner pour cette intrigue jetée dans le vide de leur vie provinciale, un valet fut expédié à M. Caron. L'homme d'affaires revint avec une célérité remarquable qui n'effraya que M. de Bourbonne. Ajournant toute décision jusqu'à un plus ample informé, fut l'avis de ce Fabius en robe de chambre, auquel de nombreuses réflexions révélaient les hautes combinaisons de l'échiquier tourangeau. Il voulut éclairer Birotteau sur les dangers de sa position. La sagesse du vieux malin ne servait pas les passions du moment. Il n'obtint qu'une légère attention. La conférence entre l'avocat et Birotteau dura peu. Le vicaire entra tout effaré, disant « Il me demande un écrit qui constate mon retrait. »« Quel est ce mot effroyable ?» dit le lieutenant de vaisseau. « Qu'est-ce que cela veut dire ?» s'écrie Madame de Listomère. « Ben, cela signifie simplement que l'abbé doit déclarer vouloir quitter la maison de Mademoiselle Gamard. » répondit M. de Bourbonne en prenant une prise de tabac. N'est-ce que cela ? Mais signez, dit Mme de Listomère en regardant Birotteau, si vous êtes décidé sérieusement à sortir de chez elle. Il n'y a aucun inconvénient à constater votre volonté. La volonté de Birotteau. Cela est juste, dit Monsieur de Bourbonne en fermant sa tabatière avec un geste sec dont la signification est impossible à rendre, car c'était tout un langage. Mais il est toujours dangereux d'écrire, ajouta-t-il en posant sa tabatière sur la cheminée d'un air à épouvanter le vicaire. Birotteau se trouvait tellement hébété par le renversement de toutes ses idées, par la rapidité des événements qui le surprenaient sans défense, par la facilité avec laquelle ses amis traitaient les affaires les plus chères de sa vie solitaire, qu'il restait immobile, comme perdu dans la lune, ne pensant à rien, mais écoutant et cherchant à comprendre le sens des rapides paroles que tout le monde prodiguait. Il prit l'écrit de M. Caron et le lut, comme si le libellé de l'avocat était l'objet de son attention, mais ce fut un mouvement machinal, et il signa cette pièce, par laquelle il reconnaissait renoncer volontairement à demeurer chez Mlle Gamard, comme à y être nourri, suivant les conventions faites entre eux. Quand le vicaire eut apposé sa signature, le sieur Caron reprit l'acte et lui demanda dans quel endroit sa cliente devait faire remettre les choses à lui appartenant. Birotteau indiqua la maison de Madame de Listomère. Par un signe, cette dame consentit à recevoir l'abbé pour quelques jours, ne doutant pas qu'il ne fût bientôt nommé chanoine. Le vieux propriétaire voulut voir cette espèce d'acte de renonciation et M. Caron le lui apporta. Eh bien, demanda-t-il au vicaire après l'avoir lu, il existe donc entre vous et Mademoiselle Gamard des conventions écrites? Où sont-elles? Quelles en sont les stipulations? L'acte est chez moi, répondit Birotteau. Et en connaissez-vous la teneur? Demanda le propriétaire à l'avocat. Non, monsieur, dit M. Caron en tendant la main pour reprendre le papier fatal. Ah, se dit en lui-même le vieux propriétaire. Toi, monsieur l'avocat, tu sais sans doute tout ce que cet acte contient, mais tu n'es pas payé pour nous le dire. Et monsieur de Bourbonne rendit la renonciation à l'avocat. Mais où vais-je mettre tous mes meubles? S'écria Birotteau. Et mes livres, ma belle bibliothèque, mes beaux tableaux, mon salon rouge, enfin tout mon mobilier. Et le désespoir du pauvre homme, qui se trouvait déplanté, pour ainsi dire, avait quelque chose de si naïf. Il peignait si bien la pureté de ses mœurs, son ignorance des choses du monde, que Madame de Listomère et Mademoiselle Salomon lui dirent pour le consoler, en prenant le ton employé par les mères quand elles promènent un jouet à leurs enfants, « N'allez-vous pas vous inquiéter de ces niaiseries-là? Mais nous vous trouverons toujours bien une maison moins froide, moins noire que celle de Mademoiselle Gamard. S'il ne se rencontre pas de logement qui vous plaise, eh bien, l'une de nous vous prendra chez elle en pension. Allons, allons, faisons un tric-trac. Demain, vous irez voir M. l'abbé Troubert pour lui demander son appui et vous venez quand vous serez bien reçu par lui. » Les gens faibles se rassurent aussi facilement qu'ils se sont effrayés. Donc, le pauvre Birotteau, ébloui par la perspective de demeurer chez Madame de Listomère, oublia la ruine, consommée sans retour, du bonheur qu'il avait si longtemps désiré, dont il avait si délicieusement joui. Mais le soir, avant de s'endormir, et avec la douleur d'un homme pour qui le tracas d'un déménagement et de nouvelles habitudes étaient la fin du monde, il se tortura l'esprit à chercher où il pourrait retrouver pour sa bibliothèque un emplacement aussi commode que l'était sa galerie. En voyant ses livres errants, ses meubles disloqués, son ménage en désordre, il se demandait mille fois pourquoi la première rangée passée chez Mademoiselle Gamard avait été si douce et la seconde si cruelle. Et toujours son aventure était un puits sans fond où tombait sa raison. Le canonicat ne lui semblait plus une compensation suffisante à tant de malheurs. Il comparait sa vie à un bât dont une seule maille échappée faisait déchirer toute la trame. Mademoiselle Salomon lui restait, mais en perdant ses vieilles illusions, le pauvre prêtre n'osait plus croire à une jeune amitié. Dans la citadolente des vieilles filles, il s'en rencontre beaucoup, surtout en France, dont la vie est un sacrifice noblement offert tous les jours à de nobles sentiments. Les unes demeurent fièrement fidèles à un cœur que la mort leur a trop promptement ravi. Martyrs de l'amour, elles trouvent le secret d'être femmes par l'âme. Les autres obéissent à un orgueil de famille qui, chaque jour, déchoit à notre honte et se dévoue à la fortune d'un frère ou à des neveux orphelins. Celles-là se font mères en restant vierges. Ces vieilles filles atteignent au plus haut héroïsme de leur sexe en consacrant tous les sentiments féminins au culte du malheur. Elles idéalisent la figure de la femme en renonçant aux récompenses de sa destinée et n'en acceptant que les peines. Elles vivent alors entourées de la splendeur de leur dévouement et les hommes inclinent respectueusement la tête devant leurs traits flétris. Mademoiselle de Sombreuil n'a été ni femme ni fille. Elle fut et sera toujours une vivante poésie. Mademoiselle Salomon appartenait à ces créatures héroïques. Son dévouement était religieusement sublime en ce qu'il devait être sans gloire après avoir été une souffrance de tous les jours. Belle, jeune, elle fut aimée, elle aima, mais son prétendu perdit la raison. Pendant 5 années, elle s'était, avec le courage de l'amour, consacrée au bonheur mécanique de ce malheureux de qui elle avait si bien épousé la folie qu'elle ne le croyait point fou. C'était du reste une personne simple de manière, franche en son langage, et dont le visage pâle ne manquait pas de physionomie malgré la régularité de ses traits. Elle ne parlait jamais des événements de sa vie. Seulement, parfois, les tressaillements soudains qui lui échappaient en entendant le récit d'une aventure affreuse ou triste révélaient en elle les belles qualités que développent les grandes douleurs. Elle était venue habiter Tours après avoir perdu le compagnon de sa vie. Elle ne pouvait y être appréciée à sa juste valeur et passait pour une bonne personne. Elle faisait beaucoup de bien et s'attachait par goût aux êtres faibles. À ce titre, le pauvre vicaire lui avait inspiré naturellement un profond intérêt. Mademoiselle de Villenoix, qui allait à la ville dès le matin, y emmena Birotteau, le mit sur le quai de la cathédrale et le laissa s'acheminant vers le cloître, où il avait grand désir d'arriver pour sauver au moins le canonicat du naufrage et veiller à l'enlèvement de son mobilier. Il ne sonna pas sans éprouver de violentes palpitations de cœur à la porte de cette maison où il avait l'habitude de venir depuis 14 ans, qu'il avait habité et d'où il devait s'exiler à jamais après avoir rêvé d'y mourir en paix à l'imitation de son ami Chapeloud. Marianne parut surprise de voir le vicaire. Il lui dit qu'il venait parler à l'abbé Troubert et se dirigea vers le rez-de-chaussée où demeurait le chanoine. Mais Marianne lui cria « L'abbé Troubert n'est plus là, monsieur le vicaire, il est dans votre ancien logement. » Ces mots causèrent un affreux saisissement au vicaire, qui comprit enfin le caractère de Troubert et la profondeur d'une vengeance si lentement calculée, en le trouvant établi dans la bibliothèque de Chapeloud, assis dans le beau fauteuil gothique de Chapeloud, couchant sans doute dans le lit de Chapeloud, jouissant des immeubles et des meubles de Chapeloud, logé au cœur de Chapeloud, annulant le testament de Chapeloud et déshéritant enfin l'ami de ce Chapeloud, qui pendant si longtemps l'avait parqué chez Mademoiselle Gamard en lui interdisant tout avancement et lui fermant les salons de Tours. Par quel coup de baguette magique cette métamorphose avait-elle eu lieu? Tout cela n'appartenait-il donc plus à Birotteau? Certes, en voyant l'air sardonique avec lequel Troubert contemplait cette bibliothèque, le pauvre Birotteau jugea que le futur vicaire général était sûr de posséder toujours la dépouille de ceux qu'il avait si cruellement haïs. Chapeloud comme un ennemi et Birotteau, parce qu'en lui se retrouvait encore Chapeloud. Mille idées se levèrent à cet aspect dans le cœur du bonhomme et le plongèrent dans une sorte de songe. Il resta immobile et comme fasciné par l'œil de Troubert qu'il regardait fixement. « Je ne pense pas, monsieur, dit enfin Birotteau, que vous vouliez me priver des choses qui m'appartiennent. Si mademoiselle Gamard a pu être impatiente de vous mieux loger, elle doit se montrer cependant assez juste pour me laisser le temps de reconnaître mes livres et d'enlever mes meubles. Monsieur, dit froidement l'abbé Troubert, en ne laissant paraître sur son visage aucune marque d'émotion, mademoiselle Gamard m'a instruit hier de votre départ, dont la cause m'est encore inconnue. Si elle m'a installé ici, ce fut par nécessité. Monsieur l'abbé Poirel a pris mon appartement. J'ignore si les choses qui sont dans ce logement appartiennent ou non à mademoiselle, mais si elles sont à vous, vous connaissez sa bonne foi. La sainteté de sa vie est une garantie de sa probité. Quant à moi, vous n'ignorez pas la simplicité de mes mœurs. J'ai couché pendant 15 années dans une chambre nue, sans faire attention à l'humidité qui m'a tué à la longue. Cependant, si vous vouliez habiter de nouveau cet appartement, je vous le céderais volontiers. » En entendant ces mots terribles, Birotteau oublia l'affaire du canonicat. Il descendit avec la promptitude d'un jeune homme pour chercher mademoiselle Gamard, et la rencontre au bas de l'escalier sur le large palier d'allée qui unissait les deux corps de logis. « Mademoiselle, » dit-il en la saluant, et sans faire attention ni au sourire aigrement moqueur qu'elle avait sur ses lèvres, ni à la flamme extraordinaire qui donnait à ses yeux la clarté de ceux des tigres, « je ne m'explique pas comment vous n'avez pas attendu que j'aie enlevé mes meubles pour... « Quoi ?» lui dit-elle en l'interrompant. « Est-ce que tous vos effets n'auraient pas été remis chez madame de Listomère ?» Mais mon mobilier. Vous n'avez donc pas lu votre acte ? Dit la vieille fille d'un ton qu'il faudrait pouvoir écrire musicalement pour faire comprendre combien la haine sut mettre de nuances dans l'accentuation de chaque mot. Et mademoiselle Gamard parut grandir, et ses yeux brillèrent encore, et son visage s'épanouit, et toute sa personne frissonna de plaisir. L'abbé Troubert ouvrit une fenêtre pour lire plus distinctement dans un volume in-folio. Birotteau resta comme foudroyé. Mademoiselle Gamard lui cordait aux oreilles, d'une voix aussi claire que le son d'une trompette, les phrases suivantes. « N'est-il pas convenu, au cas où vous sortiriez de chez moi, que votre mobilier m'appartiendrait, pour m'indemniser de la différence qui existait entre la quotité de votre pension et celle du respectable abbé Chapeloud ? Or, monsieur l'abbé Poirel ayant été nommé chanoine, en entendant ces derniers mots, Birotteau s'inclina faiblement, comme pour prendre congé de la vieille fille. Puis il sortit précipitamment. Il avait peur, en restant plus longtemps, de tomber en défaillance et de donner ainsi un trop grand triomphe à de si implacables ennemis. Marchant comme un homme ivre, il gagna la maison de madame de Listomère, où il trouva dans une salle basse son linge, ses vêtements et ses papiers contenus dans une malle. À l'aspect des débris de son mobilier, le malheureux prêtre s'assit et se cacha le visage dans ses mains pour dérober aux gens la vue de ses pleurs. L'abbé Poirel était chanoine. Alors lui, Birotteau, se voyait sans asile, sans fortune et sans mobilier. Heureusement, mademoiselle Salomon vint à passer en voiture. Le concierge de la maison, qui comprit le désespoir du pauvre homme, fit un signe au cocher, puis, après quelques mots échangés entre la vieille fille et le concierge, le vicaire se laissa conduire demi-mort près de sa fidèle amie, à laquelle il ne put dire que des mots sans suite. Mademoiselle Salomon, effrayée du dérangement momentané d'une tête déjà si faible, l'emmena sur-le-champ à l'alouette, en attribuant ce commencement d'aliénation mentale à l'effet qu'avait dû produire sur lui la nomination de l'abbé Poirel. Elle ignorait les conventions du prêtre avec Mademoiselle Gamard, par l'excellente raison qu'il en ignorait lui-même l'étendue. Et comme il est dans la nature que le comique se trouve mêlé parfois aux choses les plus pathétiques, les étranges réponses de Birotteau firent presque sourire Mademoiselle Salomon. Mais Chapeloud avait raison, dit-il, c'est un monstre. Mais qui ? Demanda-t-elle. Mais Chapeloud, oui, il m'a tout pris. Poirel, donc ? Non, Troubert. Enfin, ils arrivèrent à l'alouette, où les amis du prêtre lui prodiguèrent des soins si empressés que vers le soir, ils le calmèrent et purent obtenir de lui le récit de ce qui s'était passé pendant la matinée. Le flegmatique propriétaire demanda naturellement à voir l'acte qui, depuis la veille, lui paraissait contenir le mot de l'énigme. Birotteau tira le fatal papier timbré de sa poche, le tendit à M. de Bourbonne, qui le lut rapidement et arriva bientôt à une clause ainsi conçue. Comme il se trouve une différence de 800 francs par an entre la pension que payait feu M. Chapeloud et celle pour laquelle ladite Sophie Gamard consent à prendre chez elle aux conditions ci-dessus stipulées, le dit François Birotteau. Attendu que le sous-signé François Birotteau reconnaît surabondamment être hors d'état de donner pendant plusieurs années le prix payé par les pensionnaires de la demoiselle Gamard, et notamment par l'abbé Troubert, enfin, eu égard à diverses avances faites par ladite Sophie Gamard sous-signée, le dit Birotteau s'engage à lui laisser à titre d'indemnité le mobilier dont il se trouvera possesseur à son décès ou lorsque, par quelque cause que ce puisse être, il viendrait à quitter volontairement et à quelque époque que ce soit les lieux à lui présentement loués et à ne plus profiter des avantages stipulés dans les engagements pris par Mademoiselle Gamard envers lui ci-dessus.
Que Dieu, quelle grosse ! S'écria le propriétaire. Et de quelle griffe est armée la dite Sophie Gamard ?
Le pauvre Birotteau, n'imaginant dans sa cervelle d'enfant aucune cause qui pût le séparer un jour de Mademoiselle Gamard, comptait mourir chez elle. Il n'avait aucun souvenir de cette clause, dont les termes ne furent pas même discutés jadis, tant elle lui avait semblé juste lorsque, dans son désir d'appartenir à la vieille fille, il aurait signé tous les parchemins qu'on lui aurait présentés. Cette innocence était si respectable et la conduite de Mademoiselle Gamard si atroce. Le sort de ce pauvre sexagénaire avait quelque chose de si déplorable, et sa faiblesse le rendait si touchant, que dans un premier moment d'indignation, Madame de Listomère s'écria « Oh, je suis cause de la signature de l'acte qui vous a ruiné. Je dois vous rendre le bonheur dont je vous ai privé. » « Mais, dit le vieux gentilhomme, l'acte constitue un dol et il y a manière à procès. Eh bien, Birotteau plaidera. S'il perd à Tours, il gagnera à Orléans. S'il perd à Orléans, il gagnera à Paris. » s'écria le baron de Listomère. S'il veut plaider, reprit froidement M. de Bourbonne, je lui conseille de se démettre d'abord de son vicariat.
Nous consulterons des avocats, reprit Mme de Listomère, et nous plaiderons s'il faut plaider. Mais cette affaire est trop honteuse pour Mlle Gamard et peut devenir trop nuisible à l'abbé Troubert pour que nous n'obtions pas quelques transactions.
Après mûres délibérations, chacun promit son assistance à l'abbé Birotteau dans la lutte qui allait s'engager entre lui et tous les adhérents de ses antagonistes. Un sûr pressentiment, un instinct provincial indéfinissable forçait chacun à unir les deux noms de Gamard et de Roubert. Mais aucun de ceux qui se trouvaient alors chez Madame de Listomère, excepté le vieux malin, n'avait une idée bien exacte de l'importance d'un semblable combat. M. de Bourbonne
attira dans un coin le pauvre abbé.
« Des 14 personnes qui sont ici, lui dit-il à voix basse, il n'y en aura pas une pour vous dans 15 jours. Si vous avez besoin d'appeler quelqu'un à votre secours, vous trouvez peut-être alors que moi, assez hardi, pour oser prendre votre défense, parce que je connais la province, les hommes, les choses, et mieux encore, les intérêts. Mais tous vos amis, quoique pleins de bonnes intentions, vous mettent dans un mauvais chemin, d'où vous ne pourrez vous tirer. Écoutez mon conseil. » Si vous voulez vivre en paix, quittez le vicariat de Saint-Gatien, quittez Tours. Ne dites pas où vous irez, mais allez chercher quelque cure éloignée, où Troubert ne puisse pas vous rencontrer.
Abandonnez Tours ? S'écria le vicaire avec un effroi indescriptible.
C'était pour lui une sorte de mort. N'était-ce pas briser toutes les racines par lesquelles il s'était planté dans le monde? Les célibataires remplacent les sentiments par des habitudes. Lorsqu'à ce système moral qui les fait moins vivre que traverser la vie, se joint un caractère faible, les choses extérieures prennent sur eux un empire étonnant. Aussi, Birotteau était-il devenu semblable à quelque végétal. Le transplanter, c'était en risquer l'innocente fructification. De même que, pour vivre, un arbre doit retrouver à toute heure les mêmes sucs et toujours avoir ses chevelus dans le même terrain, Birotteau devait toujours trotter dans Saint-Gatien, toujours piétiner dans l'endroit du mail où il se promenait habituellement, sans cesse parcourir les rues par lesquelles il passait et continuer d'aller dans les 3 salons où il jouait pendant chaque soirée au whist ou au tric-trac.
Ah, je n'y pensais pas, répondit M. de Bourbonne en regardant le prêtre avec une espèce de pitié.
Tout le monde sut bientôt dans la ville de Tours que Mme la baronne de Listomère, veuve d'un lieutenant-général, recueillait l'abbé Birotteau, vicaire de Saint-Gatien. Ce fait, que beaucoup de gens révoquaient en doute, trancha nettement toutes les questions et dessina les parties, surtout lorsque Mademoiselle Salomon osa la première parler de dol et de procès. Avec la vanité subtile qui distingue les vieilles filles et le fanatisme de personnalité qui les caractérise, Mademoiselle Gamard se trouva fortement blessée du parti que prenait Madame de Listomère. La baronne était une femme de haut rang, élégante dans ses mœurs, et dont le bon goût, les manières polies, la piété ne pouvaient être contestées. Elle donnait, en recueillant Birotteau, le démenti le plus formel à toutes les assertions de Mademoiselle Gamard, en censurait indirectement la conduite et semblait sanctionner les plaintes du vicaire contre son ancienne hôtesse. Il est nécessaire, pour l'intelligence de cette histoire, d'expliquer ici tout ce que le discernement et l'esprit d'analyse avec lequel les vieilles femmes se rendent compte des actions d'autrui prêtaient de force à Mademoiselle Gamard et quelles étaient les ressources de son parti. Accompagnée du silencieux abbé Troublaire, elle allait passer ses soirées dans 4 ou 5 maisons où se réunissaient 12 personnes, toutes liées entre elles par les mêmes goûts et par l'analogie de leur situation. C'était un jour une ou 2 vieillards qui épousaient les passions et les caquetages de leurs servantes, 5 ou 6 vieilles filles qui passaient toute leur journée à tamiser les paroles, à scruter les démarches de leurs voisins et des gens placés au-dessus ou au-dessous d'elles dans la société, puis enfin plusieurs femmes âgées, exclusivement occupées à distiller les médisances, à tenir un registre exact de toutes les fortunes ou à contrôler les actions des autres. Elles pronostiquaient les mariages et blâmaient la conduite de leurs amis aussi aigrement que celle de leurs ennemis. Ces personnes, logées toutes dans la ville de manière à y figurer les vaisseaux capillaires d'une plante, aspiraient, avec la soif d'une feuille pour l'arroser, les nouvelles, les secrets de chaque ménage, les pompaient et les transmettaient machinalement à l'abbé Troubert, comme les feuilles communiquent à la tige la fraîcheur qu'elles ont absorbée.
Donc, pendant chaque soirée de la semaine, excité par ce besoin d'émotion qui se retrouve chez tous les individus, ces bonnes dévotes dressaient un bilan exact de la situation de la ville, avec une sagacité digne du Conseil des Dix, et faisaient la police armée de cette espèce d'espionnage à coup sûr que créent les passions. Puis, quand elles avaient deviné la raison secrète d'un événement, leur amour-propre les portait à s'approprier la sagesse de leur sang et de rein pour donner le ton du bavardage dans leurs zones respectives. Cette congrégation oisive et agissante, invisible et voyant tout, muette et parlant sans cesse, possédait alors une influence que sa nullité rendait en apparence peu nuisible, mais qui cependant devenait terrible quand elle était animée par un intérêt majeur. Or, il y avait bien longtemps qu'il ne s'était présenté dans la sphère de leurs existences un événement aussi grave et aussi généralement important pour chacune d'elles que l'était la lutte de Birotteau, soutenue par Madame de Listomère, contre l'abbé Troubert et Mademoiselle Gamard. En effet, les trois salons de Mesdames de Listomère, Merlin de la Blottière et de Villenoy, étant considérés comme ennemis par ceux où allait Mademoiselle Gamard, il y avait au fond de cette querelle l'esprit de corps et toutes ses vanités. C'était le combat du peuple et du Sénat romain dans une taupinière, ou une tempête dans un verre d'eau, comme l'a dit Montesquieu en parlant de la République de Saint-Marin, dont les charges publiques ne duraient qu'un jour, tant la tyrannie y était facile à saisir. Mais cette tempête développait néanmoins dans les âmes autant de passions qu'il en aurait fallu pour diriger les plus grands intérêts sociaux. N'est-ce pas une erreur de croire que le temps ne soit rapide que pour les cœurs en proie aux vastes projets qui troublent la vie et la font bouillonner? Les heures de l'abbé Troubert coulaient aussi animées, s'enfuyaient chargées de pensées tout aussi soucieuses, étaient ridées par des désespoirs et des espérances aussi profondes que pouvaient l'être les heures cruelles de l'ambitieux, du joueur et de l'amant. Dieu seul est dans le secret de l'énergie que nous coûtent les triomphes occultement remportés sur les hommes, sur les choses et sur nous-mêmes. Si nous ne savons pas toujours où nous allons, nous connaissons bien les fatigues du voyage. Seulement, s'il est permis à l'historien de quitter le drame qu'il raconte pour prendre pendant un moment le rôle des critiques, s'il vous convie à jeter un coup d'œil sur les existences de ces vieilles filles et des deux abbés, afin d'y chercher la cause du malheur qui les viciait dans leur essence, il vous sera peut-être démontré qu'il est nécessaire à l'homme d'éprouver certaines passions pour développer en lui des qualités qui donnent à sa vie de la noblesse, en étendent le cercle et assoupissent l'égoïsme naturel à toutes les créatures. Madame de Listomère revint en ville sans savoir que, depuis 5 ou 6 jours, plusieurs de ses amis étaient obligés de réfuter une opinion accréditée sur elle, dont elle aurait ri si elle l'eût connue, et qui supposait son affection pour son neveu des causes presque criminelles. Elle mena l'abbé Birotteau chez son avocat, à qui le procès ne parut pas chose facile. Les amis du vicaire, animés par le sentiment que donne la justice d'une bonne cause, ou paresseux pour un procès qui ne leur était pas personnel, avait remis le commencement de l'instance au jour où il reviendrait à Tours. Les amis de Mademoiselle Gamard purent donc prendre les devants et surent raconter l'affaire peu favorablement pour l'abbé Birotteau. Donc l'homme de loi, dont la clientèle se composait exclusivement des gens pieux de la ville, étonna beaucoup Madame de Listomère en lui conseillant de ne pas s'embarquer dans un semblable procès. Et il termina la conférence en disant que d'ailleurs il ne s'en chargerait pas parce que, au terme de l'acte, Mademoiselle Gamard avait raison en droit. Qu'en équité, c'est-à-dire en dehors de la justice, l'abbé Birotteau paraîtrait aux yeux du tribunal et à ceux des honnêtes gens manquer au caractère de paix, de conciliation et à la mansuétude qu'on lui avait supposée jusqu'alors. que mademoiselle Gamard, connue pour une personne douce et facile à vivre, avait obligé Birotteau, en lui prêtant l'argent nécessaire, pour payer les droits successifs auxquels avait donné lieu le testament de Chapeloud, sans lui en demander de reçu. Que Birotteau n'était pas d'âge et de caractère à signer un acte sans savoir ce qu'il contenait, ni sans en connaître l'importance, et que, s'il avait quitté mademoiselle Gamard après 2 ans d'habitation, quand son ami Chapeloud était resté chez elle pendant 12 ans et Troubert pendant 15 ans, ce ne pouvait être qu'en vue d'un projet à lui connu, et que le procès serait donc jugé comme un acte d'ingratitude, etc., etc. Après avoir laissé Birotteau marcher en avant vers l'escalier, l'avoué prit madame de Listomère à part en la reconduisant et l'engagea, au nom de son repos, à ne pas se mêler de cette affaire. Cependant, le soir, le pauvre vicaire, qui se tourmentait autant qu'un condamné à mort dans le cabanon de Bicêtre quand il y attend le résultat de son pourvoi en cassation, ne put s'empêcher d'apprendre à ses amis le résultat de sa visite, au moment où, avant l'heure de faire les parties, le cercle se formait devant la cheminée de madame de Listomère. Bah, excepté l'avoué des libéraux, je connais à tour aucun homme de chicane qui voulut se charger de ce procès sans avoir l'intention de vous le faire perdre, s'écria monsieur de Bourbonne. Et je ne vous conseille pas de vous y embarquer. Eh bien, c'est une infamie, dit le lieutenant de vaisseau. Moi, je conduirai l'abbé chez cet avoué. Allez-y lorsqu'il fera nuit, dit monsieur de Bourbonne en l'interrompant. Et pourquoi ? Je viens d'apprendre que l'abbé Troubert est nommé vicaire général à la place de celui qui est mort avant-hier. Oh, je me moque bien de l'abbé Troubert. Malheureusement, le baron de Listomère, homme de 36 ans, ne vit pas le signe que lui fit monsieur de Bourbonne pour lui recommander de peser ses paroles en lui montant un conseiller de préfecture ami de Troubert. Le lieutenant de vaisseau ajouta donc « Si monsieur l'abbé Troubert est un fripon, oh !» dit monsieur de Bourbonne en l'interrompant. « Pourquoi mettre l'abbé Troubert dans une affaire à laquelle il est complètement étranger ?» Mais, reprit le baron, ne jouit-il pas des meubles de l'abbé Birotteau ? Je me souviens d'être allé chez Chapeloud et d'y avoir vu 2 tableaux de prix. Supposez qu'ils valent 10 000 francs. Croyez-vous que M. Birotteau ait une intention de donner pour 2 ans d'habitation chez cette Gamard 10 000 francs quand déjà la bibliothèque et les meubles valent à peu près cette somme ? L'abbé Birotteau ouvrit de grands yeux en apprenant qu'il avait possédé un capital si énorme. Et le baron, poursuivant avec chaleur, ajouta « Pardieu, monsieur Salmon, l'ancien expert du musée de Paris est venu voir ici sa belle-mère. Je vais y aller ce soir même avec l'abbé Birotteau pour le prier d'estimer les tableaux. De là, je le mènerai chez l'avoué. » 2 jours après cette conversation, le procès avait pris de la consistance. L'avoué des libéraux, devenu celui de Birotteau, jetait beaucoup de défaveurs sur la cause du vicaire. Les gens opposés au gouvernement et ceux qui étaient connus pour ne pas aimer les prêtres ou la religion, 2 choses que beaucoup de gens confondent, s'emparèrent de cette affaire et toute la ville en parla. L'ancien expert du musée avait estimé 11 000 francs la Vierge du Valentin et le Christ de Lebrun, morceaux d'une beauté capitale. Quant à la bibliothèque et aux meubles gothiques, le goût dominant qui croissait de jour en jour à Paris pour ces sortes de choses leur donnait momentanément une valeur de 12 000 francs. Enfin, l'expert, vérification faite, évalua le mobilier entier à 10 000 écus. Or, il était évident que Birotteau, n'ayant pas entendu donner à mademoiselle Gamard cette somme énorme pour le peu d'argent qu'il pouvait lui devoir en vertu de la soulte stipulée, il y avait, judiciairement parlant, lieu à réformer leur convention. Autrement, la vieille fille eût été coupable d'un dol volontaire. L'avoué des libéraux entama donc l'affaire en lançant un exploit introductif d'instance à mademoiselle Gamard. Quoique très acerbe, cette pièce, fortifiée par des citations d'arrêts souverains et corroborée par quelques articles du Code, n'en était pas moins un chef-d'œuvre de logique judiciaire et condamnait si évidemment la vieille fille que 30 ou 40 copies en furent méchamment distribuées dans la ville par l'opposition. Quelques jours après le commencement des hostilités entre la vieille fille et Birotteau, le baron de Listomère, qui espérait être compris en qualité de capitaine de corvette dans la première promotion, annoncée depuis quelque temps au ministère de la Marine, reçut une lettre par laquelle l'un de ses amis lui annonçait qu'il était question dans les bureaux de le mettre hors du cadre d'activité. Étrangement surpris de cette nouvelle, il partit immédiatement pour Paris et vint à la première soirée du ministre, qui en parut fort étonné lui-même et se prit à rire en apprenant les craintes dont lui fit part le baron de Listomère. Le lendemain, nonobstant la parole du ministre, le baron consulta les bureaux. Par une indiscrétion que certains chefs commettent assez ordinairement pour leurs amis, un secrétaire lui montra un travail tout préparé, mais que la maladie d'un directeur avait empêché jusqu'alors d'être soumis au ministre et qui confirmait la fatale nouvelle. Aussitôt, le baron de Listomère alla chez un de ses oncles, lequel, en sa qualité de député, pouvait voir immédiatement le ministre à la Chambre, et il le pria de sonder les dispositions de son Excellence, car il s'agissait pour lui de la perte de son avenir. Aussi attendit-il avec la plus vive anxiété, dans la voiture de son oncle, la fin de la séance. Le député sortit bien avant la clôture, et dit à son neveu, pendant le chemin qu'il fit en se rendant à son hôtel, « Mais comment, diable, vas-tu te mêler de faire la guerre aux prêtres ? Le ministre a commencé par m'apprendre que tu t'es mis à la tête des libéraux à Tours. Mais tu as des opinions détestables. Tu ne suis pas la ligne du gouvernement, etc. » Ses phrases étaient aussi entortillées que s'il parlait encore à la Chambre. Alors je lui ai dit, « Ah, ça, entendons-nous. Son Excellence a fini par m'avouer que tu étais mal avec la grande aumônerie. Bref, en demandant quelques renseignements à mes collègues, j'ai su que tu parlais fort légèrement d'un certain abbé Troubert, simple vicaire général, mais le personnage le plus important de la province, où il représente la congrégation. J'ai répondu de toi, corps pour corps, au ministre, « Monsieur mon neveu, si tu veux faire ton chemin, ne te crée aucune inimité sacerdotale. Va vite à Tours, fais-y la paix avec ce diable de vicaire général. Apprends que les vicaires généraux sont des hommes avec lesquels il faut toujours vivre en paix. Morbleu, lorsque nous travaillons tous à rétablir la religion, il est stupide, un lieutenant de vaisseau qui veut être capitaine, de déconsidérer les prêtres. Si tu ne te raccommodes pas avec l'abbé Troubert, ne compte plus sur moi, je te renierai. Le ministre des Affaires ecclésiastiques m'a parlé tout à l'heure de cet homme comme d'un futur évêque. Si Troubert prenait notre famille en haine, il pourrait m'empêcher d'être compris dans la prochaine fournée de pères, tu comprends ? Ces paroles expliquèrent au lieutenant de vaisseau les secrètes occupations de Troubert, de qui Birotteau disait niaisement « C'est à quoi, pas du tout, lui sert de passer ses nuits. » La position du chanoine, au milieu du sénat femelle qui faisait si subitement la police de la province, et sa capacité personnelle, l'avait fait choisir par la congrégation entre tous les ecclésiastiques de la ville pour être le proconsul inconnu de la Touraine. Archevêques, général, préfet, grands et petits, étaient sous son occulte domination. Le baron de Listomère eut bientôt pris son parti. Oh, « Je ne veux pas, dit-il à son oncle, recevoir une seconde bordée ecclésiastique dans mes œuvres vives. » 3 jours après cette conférence diplomatique entre l'oncle et le neveu, Le marin, subitement revenu par la malle-poste à Tours, révélait à sa tante, le soir même de son arrivée, les dangers que couraient les plus chères espérances de la famille de Listomère s'il s'obstinait l'un et l'autre à soutenir cet imbécile de Birotteau. Le baron avait retenu M. de Bourbonne au moment où le vieux gentilhomme prenait sa canne et son chapeau pour s'en aller après la partie de whist. Les lumières du vieux malin étaient indispensables pour éclairer les écueils dans lesquels se trouvaient engagés les Listomères, et le vieux malin n'avait prématurément cherché sa canne et son chapeau que pour se faire dire à l'oreille « Restez, nous avons à causer ». Le prompt retour du marron, son air de contentement en désaccord avec la gravité peinte en certains moments sur sa figure, avait accusé vaguement à M. de Bourbonne quelques échecs reçus par le lieutenant dans sa croisière contre Gamard et Troubert. Il ne marqua point de surprise en entendant le baron proclamer le secret pouvoir du vicaire général congréganiste. « Oh, je le savais !» dit-il. « Eh bien !» s'écria la baronne, « pourquoi ne pas nous avoir avertis ?»« Madame, » répondit-il vivement, « oubliez que j'ai deviné l'invisible influence de ce prêtre et j'oublierai que vous la connaissez également. Si nous ne nous gardions pas le secret, nous passerions pour ses complices. Nous serions redoutés et haïs. Imitez-moi, feignez d'être une dupe, mais sachez bien où vous mettez les pieds. Je vous en avais assez dit, vous ne me comprenez point et je ne voulais pas me compromettre. » « Mais comment devons-nous maintenant nous y prendre, alors ?» dit le baron. Abandonner Birotteau n'était pas une question, et ce fut une première condition sous-entendue par les trois conseillers. Battre en retraite avec les honneurs de la guerre a toujours été le chef-d'œuvre des plus habiles généraux, répondit M. de Bourbonne. Plier devant Troubert, si sa haine est moins forte que sa vanité, vous en ferez un allié, mais si vous pliez trop, il vous marchera sur le ventre, car abîme tout plutôt, c'est l'esprit de l'Église, a dit Boileau. Faites croire que vous quittez le service, vous lui échappez, monsieur le baron. Envoyez le vicaire, madame, vous donnerez des gains de cause à la Camarde. Demandez chez l'archevêque à l'abbé Troubert s'il sait le whist. Il vous dira oui. Priez-le de venir faire une partie dans ce salon où il veut être reçu. Certes, il y viendra. Vous êtes femme, sachez mettre ce prêtre dans vos intérêts. Quand le baron sera capitaine de vaisseau, son oncle pair de France, Troubert évêque, vous pourrez faire Birotteau chanoine tout à votre aise. Jusque-là, pliez, mais pliez avec grâce et en menaçant. Votre famille peut prêter à Troubert autant d'appui qu'il vous en donnera. Vous vous entendrez à merveille. D'ailleurs, marchez la sonde en main, marin. Ce pauvre Birotteau, dit la baronne. Oh, entamez-le promptement, répliqua le propriétaire en s'en allant. Si quelque libéral adroit s'emparait de cette tête vide, il vous causerait des chagrins. Après tout, les tribunaux prononceraient en sa faveur, et Troubert doit avoir peur du jugement. Il peut encore vous pardonner d'avoir entamé le combat, mais après une défaite, il serait implacable. J'ai dit. Il fit claquer sa tabatière, alla mettre ses doubles souliers et partit. Le lendemain matin, après le déjeuner, la baronne en resta seule avec le vicaire et lui dit, non sans un visible embarras, « Mon cher monsieur Birotteau, vous allez trouver mes demandes bien injustes et bien inconséquentes, mais il faut, pour vous et pour nous d'abord, éteindre votre procès contre mademoiselle Gamard en vous désistant de vos prétentions, puis quitter ma maison. » En entendant ces mots, le pauvre prêtre pâlit. « Oui, je suis, reprit-elle, la cause innocente de vos malheurs, et c'est que, sans mon neveu, vous n'eussiez pas intenté le procès qui, maintenant, fait votre chagrin et le nôtre. Mais écoutez. »
Elle lui déroula succinctement l'immense étendue de cette affaire et lui expliqua la gravité de ses suites. Ses méditations lui avaient fait deviner pendant la nuit les antécédents probables de la vie de Troubert. Elle put alors, sans se tromper, démontrer à Birotteau la trame dans laquelle l'avait enveloppée cette vengeance si habilement ourdie, lui révéler la haute capacité, le pouvoir de son ennemi, en lui en dévoilant la haine, en lui en apprenant les causes et en lui le montrant couché durant 12 années devant Chapeloud et dévorant Chapeloud et persécutant encore Chapeloud dans son ami. L'innocent Birotteau joignit ses mains comme pour prier et pleura de chagrin à l'aspect d'horreurs humaines que son âme pure n'avait jamais soupçonnées. Aussi effrayé que s'il se fût trouvé sur le bord d'un abîme, il écoutait, les yeux fixes et humides, mais sans exprimer aucune idée, le discours de sa bienfaitrice, qui lui dit en terminant « Je sais tout ce qu'il y a de mal à vous abandonner, mais mon cher abbé, les devoirs de famille passent avant ceux de l'amitié. Cédez, comme je le fais à cet orage, je vous emprouverai toute ma reconnaissance. Je ne vous parle pas de vos intérêts, je m'en charge. Vous serez hors de toute inquiétude pour votre existence. Par l'entremise de Bourbonne, qui saura sauver les apparences, je ferai en sorte que rien ne vous manque. Mon ami, donnez-moi le droit de vous trahir. Je resterai votre ami, tout en me conformant aux maximes du monde. » Décidé, le pauvre abbé, stupéfait, s'écria « Chapeloud avait donc raison. En disant que si Troubert pouvait venir le tirer par les pieds dans la tombe, il le ferait. Il couche dans le lit de Chapeloud. » « Mais il ne s'agit pas de se lamenter, » dit madame de Listomère. « Nous avons peu de temps à nous. Voyons. » Birotteau avait trop de bonté pour ne pas obéir dans les grandes crises au dévouement irréfléchi du premier moment. Mais d'ailleurs, sa vie n'était déjà plus qu'une agonie. Il dit, en jetant à la protectrice un regard désespérant qui la navra, « Oh, je me confie à vous. Je ne suis plus qu'un brouillé de la rue. » Ce mot « tourangeau » n'a pas d'autre équivalent possible que le mot « brin de paille ». Mais il y a de jolis petits brins de paille, jaunes, polis, rayonnants, qui font le bonheur des enfants, tandis que le bourrié est le brin de paille décoloré, boueux, roulé dans les ruisseaux, chassé par la tempête, tordu par les pieds du passant. Mais, madame, je ne voudrais pas laisser à l'abbé Troubert le portrait de Chapeloud. Il a été fait pour moi, il m'appartient. Obtenez qu'il me soit rendu, j'abandonnerai tout le reste. « Eh bien, » dit madame de Listomère, « j'irai chez mademoiselle Gamard. » Ces mots furent dits d'un ton qui révéla l'effort extraordinaire que faisait la baronne de Listomère en s'abaissant à flatter l'orgueil de la vieille fille. « Et, » ajouta-t-elle, « je tâcherai de tout arranger. » À peine osais-je l'espérer. Allez voir monsieur de Bourbonne, qu'il minute votre désistement en bonne forme. « Apportez-moi l'acte bien en règle, puis avec le secours de monseigneur l'archevêque, peut-être pourrons-nous en finir. » Birotteau sortit épouvanté. Troubert avait pris à ses yeux les dimensions d'une pyramide d'Égypte. Les mains de cet homme étaient à Paris et ses coudes dans le cloître Saint-Gatien. « Mais lui, se dit-il, empêcher monsieur le marquis de Listomère de devenir pair de France, et peut-être avec le secours de monseigneur l'archevêque, pourra-t-on en finir ?» En présence de si grands intérêts, Birotteau se trouvait comme un ciron. Il se faisait justice. La nouvelle du déménagement du Birotteau fut d'autant plus étonnante que la cause en était impénétrable. Madame de Listomère disait que, son neveu, voulant se marier, quittait le service, elle avait besoin pour agrandir son appartement de celui du vicaire.
Personne ne connaissait encore le désistement de Birotteau. Ainsi, les instructions de M. de Bourbonne étaient sagement exécutées. Ces deux nouvelles, en parvenant aux oreilles du grand vicaire, devaient flatter son amour-propre en lui apprenant que, si elle ne capitulait pas, la famille de Listomère restait au moins neutre et reconnaissait tacitement le pouvoir occulte de la congrégation. Le reconnaître n'était-ce pas s'y soumettre ? Mais le procès demeurait tout entier subjudiqué. N'était-ce pas à la fois plié et menacé ? Et Listomère avait donc pris dans cette lutte une attitude exactement semblable à celle du grand vicaire. Il se tenait en dehors et pouvait tout diriger. Mais un événement grave survint et rendit encore plus difficile la réussite des desseins médités par M. de Bourbonne et par Listomère pour apaiser le parti Gamard et Troubert. La vieille Mademoiselle Gamard avait pris du froid en sortant de la cathédrale, s'était mise au lit et passait pour être dangereusement malade. Toute la ville retentissait de plaintes excitées par une fausse commisération. La sensibilité de Mademoiselle Gamard n'avait pas pu résister au scandale de ce procès. Malgré son bon droit, elle allait mourir de chagrin. Birotteau tuait sa bienfaitrice. Telle était la substance des phrases jetées en avant par les tuyaux capillaires du grand conciliabule femelle et complaisamment répétées par la ville de Tours. Madame de Listomère eut la honte d'être venue chez la vieille fille sans recueillir le fruit de sa visite. Elle demanda fort poliment à parler à monsieur le vicaire général. Flattée, peut-être, de recevoir dans la bibliothèque de Chapeloud et au coin de cette cheminée ornée des deux fameux tableaux contestés, une femme par laquelle il avait été méconnu, Troubert fit attendre la baronne un moment, puis il consentit à lui donner audience. Jamais courtisans ni diplomates ne mirent dans la discussion de leurs intérêts particuliers ou dans la conduite d'une négociation nationale plus d'habileté, de dissimulation, de profondeur que n'en déployèrent la baronne et l'abbé dans le moment où ils se trouvèrent tous les deux en scène. Semblable au parrain qui, dans le Moyen-Âge, armait le champion et en fortifiait la valeur par d'utiles conseils au moment où il entrait en lice, le vieux malin avait dit à la baronne « N'oubliez pas, votre rôle, vous êtes conciliatrice et non partie intéressée. Troubert est également un médiateur. Pesez vos mots. Étudiez les inflexions de la voix du vicaire général. S'il se caresse le menton, vous l'aurez séduit. » Quelques dessinateurs se sont amusés à représenter en caricature le contraste fréquent qui existe entre ce que l'on dit et ce que l'on pense. Ici, pour bien saisir l'intérêt du duel de paroles qui eut lieu entre le prêtre et la grande dame, il est nécessaire de dévoiler les pensées qu'ils cachèrent mutuellement sous des phrases en apparence insignifiantes. Madame de Listomère commença par témoigner le chagrin que lui causait le procès de Birotteau, puis elle parla du désir qu'elle avait de voir terminer cette affaire à la satisfaction des deux parties. « Le mal est fait, madame, » dit l'abbé d'une voix grave. « La vertueuse mademoiselle Gamard se meurt. Je ne m'intéresse pas plus à cette sotte fille qu'au prêtre Jean, pensait-il, mais je voudrais bien vous mettre la mort sur le dos et vous en inquiéter la conscience si vous êtes assez niais pour en prendre du souci. » En apprenant sa maladie, monsieur, lui répondit la baronne, j'ai exigé de monsieur le vicaire un désistement que j'apportais à cette sainte fille. Je te devine, rusé coquin, pensait-elle. Mais nous voilà bien à l'abri de tes calomnies. Quant à toi, si tu prends le désistement, tu t'enferras, tu avoueras ainsi ta complicité. Il se fit un moment de silence. Les affaires temporelles de mademoiselle Gamard ne me concernent pas, dit enfin le prêtre en abaissant ses larges paupières sur ses yeux d'aigle pour voiler ses émotions. Oh, vous ne me compromettrez pas. Mais Dieu soit loué. Les derniers avocats ne plaideront pas une affaire qui pouvait me saisir. Que veulent donc les Listomères pour se faire ainsi mes serviteurs? Monsieur, répondit la baronne, les affaires de Monsieur Birotteau me sont aussi étrangères que vous le sont les intérêts de Mademoiselle Gamard. Mais malheureusement, la religion peut souffrir de leurs débats. Je ne vois en vous qu'un médiateur, là où moi-même j'agis en conciliatrice. Nous ne nous abuserons ni l'un ni l'autre, Monsieur Troubert, pensait-elle. Sentez-vous le tour épigrammatique de cette réponse ?
La religion souffrir, madame ? Dit le grand vicaire.
La religion est trop haut située pour que les hommes puissent y porter atteinte.
La religion, c'est moi, pensait-il.
Dieu nous jugera sans erreur, madame, ajouta-t-il. Je ne reconnais que son tribunal.
Eh bien, monsieur, répondit-elle, tâchons d'accorder les jugements des hommes avec les jugements de Dieu.
Oui, ta religion, c'est toi.
L'abbé Troubert changea de ton. Monsieur, votre neveu n'est-il pas allé à Paris ? Vous avez eu là de mes nouvelles, pensait-il. Je puis vous écraser, vous qui m'avez méprisé. Vous venez capituler.
Ah oui, monsieur, je vous remercie de l'intérêt que vous prenez à lui. Il retourne ce soir à Paris. Il est mandé par le ministre, qui est parfait pour nous, et voudrait ne pas lui voir quitter le service.
Jésuite, tu nous excuseras pas, pensera-t-elle, et ta plaisanterie est comprise.
Un moment de silence. Je ne trouve pas sa conduite convenable dans cette affaire, reprit-elle, mais il faut pardonner à un marin de ne pas se connaître en droit.
Faisons alliance, pensait-elle, nous ne gagnerons rien à guerroyer. Un léger sourire de l'abbé se perdit dans les plis de son visage.
Il nous aura rendu le service de nous apprendre la valeur de ces deux peintures, dit-il en regardant les tableaux. Et elles seront un bel ornement pour la chapelle de la Vierge.
Vous m'avez lancé une épigramme, pensait-il. En voici deux. Nous sommes quittes, madame.
Oh, si vous les donniez à Saint-Gatien, je vous demanderai de me laisser offrir à l'église des cadres dignes du lieu et de l'œuvre.
Je voudrais bien te faire avouer que tu convoitais les meubles de Birotteau, pensait-elle.
« Elles ne m'appartiennent pas, » dit le prêtre en se tenant toujours sur ses gardes.
« Mais voici, » dit madame de Listomère, « un acte qui éteint toute discussion et les rend à mademoiselle Gamard. » Elle posa le désistement sur la table.
« Voyez, monsieur, » pensait-elle, « comme j'ai de confiance en vous. « Il est digne de vous, monsieur, » ajouta-t-elle, « digne de votre beau caractère. » De réconcilier deux chrétiens, quoique je prenne maintenant peu d'intérêt à M. Birotteau.
Mais il est votre pensionnaire,
dit-il en l'interrompant. Non, monsieur, il n'est plus chez moi.
Ah, la pairie de mon beau-frère et le grade de mon neveu me font faire bien des lâchetés, pensait-elle.
L'abbé demeura impassible. Mais son attitude de calme était l'indice des émotions les plus violentes. Monsieur de Bourbonne avait seul deviné le secret de cette paix apparente. Le prêtre triomphait.
Mais pourquoi vous êtes-vous donc chargé de son désistement ? Demanda-t-il, excité par un sentiment analogue à celui qui pousse une femme à se faire répéter des compliments.
Je n'ai pu me défendre d'un mouvement de compassion. Birotteau, dont le caractère faible doit vous être connu, m'a supplié de voir mademoiselle Gamard afin d'obtenir pour prix de sa renonciation à...
L'abbé fronça les sourcils.
Ah, des droits reconnus par des avocats distingués. Le portrait...
Le prêtre regarda madame de Listomère.
Le portrait de Chapeloud, dit-elle en continuant. Je vous laisse le juge de sa prétention.
Tu serais condamné si tu voulais plaider, pensait-elle. L'accent que prit la baronne pour prononcer les mots « avocat distingué » fit voir au prêtre qu'elle connaissait le fort et le faible de l'ennemi.
Madame de Listomère montra tant de talent à ce connaisseur émérite dans le cours de cette conversation qui se maintint longtemps sur ce ton, que l'abbé descendit chez mademoiselle Gamard pour aller chercher sa réponse à la transaction proposée. Il revint bientôt. « Madame, voici les paroles de la pauvre mourante. Monsieur, l'abbé Chapeloud m'a témoigné trop d'amitié, m'a-t-elle dit, pour que je me sépare de son portrait. Quant à moi, reprit-il, s'il ne m'appartenait, je ne le céderai à personne. J'ai porté des sentiments trop constants au cher défunt pour ne pas me croire le droit de disputer son image à tout le monde. Monsieur, ne nous brouillons pas pour une mauvaise peinture. Je m'en moque, autant vous vous en moquez vous-même, pensait-elle. Gardez-la, nous en ferons faire une copie. Je m'applaudis d'avoir assoupi ce triste et déplorable procès, et j'y aurais personnellement gagné le plaisir de vous connaître. J'ai entendu parler de votre talent, whist. Vous pardonnerez à une femme d'être curieuse, dit-elle en souriant. Si vous vouliez venir jouer quelquefois chez moi, vous ne pouvez pas vous douter de l'accueil que vous y recevrez. Troubert se caressa le menton. Il est pris, Bourbonne avait raison, pensait-elle. Il a sa dose de vanité. En effet, le grand vicaire éprouvait en ce moment la sensation délicieuse contre laquelle Mirabeau ne savait pas se défendre quand, au jour de sa puissance, il voyait ouvrir devant sa voiture la porte cochère d'un hôtel autrefois fermé pour lui. « Madame, répondit-il, j'ai de trop grandes occupations pour aller dans le monde, mais pour vous, que ne ferait-on pas ?»« Mais la vieille fille va crever, j'entamerai le listomère et les servirai, s'ils me servent, pensait-il. Il vaut mieux les avoir pour amis que pour ennemis. » Madame de Listomère retourna chez elle, espérant que l'archevêque consommerait une œuvre de paix si heureusement commencée. Mais Birotteau ne devait même pas profiter de son désistement. Madame de Listomère apprit le lendemain la mort de mademoiselle Gamard. Le testament de la vieille fille ouvert, personne ne fut surpris en apprenant qu'elle avait fait l'abbé Troubert son légataire universel. Sa fortune fut estimée à 100 000 écus. Le vicaire général envoya 2 billets d'invitation pour le service et le convoi de son ami chez madame de Listomère, l'un pour elle, l'autre pour son neveu. « Il faut y aller, dit-elle. « Ça ne veut pas dire autre chose, s'écria monsieur de Bourbonne. C'est une épreuve par laquelle monseigneur Troubert veut vous juger. Baron, allez jusqu'au cimetière, ajouta-t-il en se tournant vers le lieutenant de vaisseau qui, pour son malheur, n'avait pas quitté Tours. Le service eut lieu et fut d'une grande magnificence ecclésiastique. Une seule personne y pleura. Ce fut Birotteau qui, seul dans une chapelle écartée et sans être vu, se crut coupable de cette mort et pria sincèrement pour l'âme de la défunte en déplorant avec amertume de n'avoir pas obtenu d'elle le pardon de ses torts. L'abbé Troubert accompagna le corps de son ami jusqu'à la fosse où elle devait être enterrée. Arrivé sur le bord, il prononça un discours où, grâce à son talent, le tableau de la vie étroite menée par la testatrice prit des proportions monumentales. Les assistants remarquèrent ces paroles dans la péroraison. Cette vie pleine de jours acquise à Dieu et à sa religion, cette vie que décore tant de belles actions faites dans le silence, tant de vertus modestes et ignorées, fut brisée par une douleur que nous appellerions imméritée si au bord de l'éternité nous pouvions oublier que toutes nos afflictions nous sont envoyées par Dieu. Les nombreux amis de cette sainte fille, connaissant la noblesse et la candeur de son âme, prévoyaient qu'elle pouvait tout supporter hormis les soupçons qui flétrissaient sa vie entière. Aussi,
Peut-être la Providence l'a-t-elle emmené au sein de Dieu pour l'enlever à nos misères. Heureux ceux qui peuvent reposer ici-bas en paix avec eux-mêmes, comme Sophie repose maintenant au séjour des bienheureux dans sa robe d'innocence.
Quand il eut achevé ce pompeux discours, reprit M. de Bourbonne, qui raconta les circonstances de l'enterrement à Mme de Listomère, au moment où les parties finies et les portes fermées, ils furent seuls avec le baron.
Figurez-vous, si cela est possible, ce Louis XI en soutane, donnant ainsi le dernier coup de goupillon, chargé d'eau bénite.
M. de Bourbonne prit la pincette et imita si bien le geste de l'abbé Troubert que le baron et sa tante ne purent s'empêcher de sourire.
Là, seulement, reprit le vieux propriétaire, il s'est démenti. Jusqu'à sa contenance avait été parfaite, mais il lui a sans doute été impossible, en calfeutrant pour toujours cette vieille fille qu'il méprisait souverainement et haïssait, peut-être autant qu'il a détesté Chapeloud, de ne pas laisser percer sa joie dans un geste.
Le lendemain matin, Mademoiselle Salomon vint déjeuner chez Madame de Listomère, et en arrivant, lui dit tout ému:
« Ah, notre pauvre abbé Birotteau a reçu tout à l'heure un coup affreux qui annonce les calculs les plus étudiés de la haine. Il est nommé curé de Saint-Symphorien. »
Saint-Symphorien est un faubourg de Tours situé au-delà du pont. Ce pont, un des plus beaux monuments de l'architecture française, a 1800 pieds de long et les deux places qui le terminent à chaque bout sont absolument pareilles.
« Comprenez-vous, reprit-elle après une pause et tout étonnée de la froideur que marquait Madame de Listomère en apprenant cette nouvelle, l'abbé Birotteau sera là comme à 100 lieues de Tours, de ses amis de Tours. N'est-ce pas un exil d'autant plus affreux qu'il est arraché à une ville que ses yeux verront tous les jours et il ne pourra plus guère venir? Lui qui, depuis ses malheurs, peut à peine marcher, serait obligé de faire 1 lieue pour nous voir. En ce moment, le malheureux est au lit, il a la fièvre. Le presbytère de Saint-Symphorien est froid, humide, et la paroisse n'est pas assez riche pour le réparer. Le pauvre vieillard, pendant que se trouvait enterré dans un véritable sépulcre, quelle atroce combinaison!
Maintenant, il nous suffira peut-être pour achever cette histoire de rapporter simplement quelques événements et d'esquisser un dernier tableau. 5 mois après, le vicaire général fut nommé évêque. Madame de Listomère était morte et laissait 1 500 francs de rente par testament à l'abbé Birotteau. Le jour où le testament de la baronne fut connu, Monseigneur Hyacinthe, évêque de Troyes, était sur le point de quitter la ville de Tours pour aller résider dans son diocèse, mais il retarda son départ. Furieux d'avoir été joué par une femme à laquelle il avait donné la main, tandis qu'elle tendait secrètement la sienne, à un homme qu'il regardait comme son ennemi, Troubert menaça de nouveau l'avenir du baron et la pairie du marquis de Listomère. Il dit en pleine assemblée, dans le salon de l'archevêque, un de ces mots ecclésiastiques, gros de vengeance et plein de mielleuse mansuétude. L'ambitieux marin vint voir ce prêtre implacable, qui lui dicta sans doute de dures conditions, car la conduite du baron attesta le plus ancien dévouement aux volontés du terrible congréganiste. Le nouvel évêque rendit par un acte authentique la maison de Mademoiselle Gamard au chapitre de la cathédrale. Il donna la bibliothèque et les livres de Chapeloud au petit séminaire. Il dédia les 2 tableaux contestés à la chapelle de la Vierge, mais il garda le portrait de Chapeloud. Personne ne s'expliqua cet abandon presque total de la succession de Mademoiselle Gamard. M. de Bourbonne supposa que l'évêque en conservait secrètement la partie liquide, afin d'être à même
de tenir avec honneur son rang à Paris, s'il était porté au banc des évêques dans la chambre haute. Enfin, la veille du départ de Monseigneur Troubert, le vieux malin finit par deviner le dernier calcul que cacha cette action, coup de grâce donné par la plus persistante de toutes les vengeances à la plus faible de toutes les victimes. Le lait de Madame de Listomère à Birotteau fut attaqué par le baron de Listomère sous prétexte de captation. Quelques jours après l'exploit introductif d'instance, le baron fut nommé capitaine de vaisseau. Par une mesure disciplinaire, le curé de Saint-Symphorien était interdit. Les supérieurs ecclésiastiques jugeaient le procès par avance. L'assassin de feu Sophie Gamard était donc un fripon. Si Monseigneur Troubert avait conservé la succession de la vieille fille, il eût été difficile de faire censurer Birotteau. Au moment où Monseigneur Hyacinthe, évêque de Troyes, venait en chaise de poste le long du quai Saint-Symphorien pour se rendre à Paris, le pauvre abbé Birotteau avait été mis dans un fauteuil au soleil au-dessus d'une terrasse. Ce curé, frappé par l'archevêque, était pâle et maigre. Le chagrin empreint dans tous ses traits décomposait entièrement ce visage qui jadis était si doucement gai. La maladie jetait sur ses yeux, naïvement animés autrefois par les plaisirs de la bonne chère et dénués d'idées pesantes, un voile qui simulait une pensée. Ce n'était plus que le squelette du Birotteau qui roulait, un an auparavant, si vide mais si content à travers le cloître. L'évêque lui lança un regard de mépris et de pitié. Puis il consentit à l'oublier et passa. Nul doute que Troubert n'eût été en d'autres temps Hildebrandt ou Alexandre VI. Aujourd'hui, l'Église n'est plus une puissance politique et n'absorbe plus les forces des gens solitaires. Le célibat offre donc alors ce vice capital que, faisant converger les qualités de l'homme sur une seule passion, l'égoïsme, il rend les célibataires ou nuisibles ou inutiles. Nous vivons à une époque où le défaut des gouvernements est d'avoir moins fait la société pour l'homme que l'homme pour la société. Il existe un combat perpétuel entre l'individu contre le système qui veut l'exploiter et qu'il tâche d'exploiter à son profit. Tandis que jadis, l'homme réellement plus libre se montrait plus généreux pour la chose publique. Le cercle au milieu duquel s'agitent les hommes s'est insensiblement élargi. L'âme qui peut ou embrasser en embrasser la synthèse ne sera jamais qu'une magnifique exception. Car habituellement en morale comme en physique, le mouvement perd en intensité ce qu'il gagne en étendue. La société ne doit pas se baser sur des exceptions. D'abord, l'homme fut purement et simplement père, et son cœur battit chaudement, concentré dans le rayon de sa famille. Plus tard, il vécut pour un clan ou pour une petite république. De là les grands dévouements historiques de la Grèce ou de Rome. Puis il fut l'homme d'une caste ou d'une religion, pour les grandeurs de laquelle il se montra souvent sublime. Mais là, le champ de ses intérêts s'augmenta de toutes les régions intellectuelles. Aujourd'hui, sa vie est attachée à celle d'une immense patrie. Bientôt, sa famille sera, dit-on, le monde entier. Ce cosmopolitisme moral, espoir de la Rome chrétienne, ne serait-il pas une sublime erreur? Il est si naturel de croire à la réalisation d'une noble chimère, à la fraternité des hommes. Hélas, la machine humaine n'a pas de si divine proportion. Les âmes assez vastes pour épouser une sentimentalité réservée aux grands hommes ne seront jamais celles ni des simples citoyens ni des pères de famille. Certains physiologistes pense que lorsque le cerveau s'agrandit ainsi, le cœur doit se resserrer. Erreur. L'égoïsme apparent des hommes porte une science, une nation ou des lois dans leur sein. N'est-il pas la plus noble des passions et en quelque sorte la maternité des masses? Pour enfanter des peuples neufs ou pour produire des idées nouvelles, ne doivent-ils pas unir dans leur puissante tête les mamelles de la femme à la force de Dieu? L'histoire des innocents trois, des Pierre le Grand et de tous les meneurs de siècles ou de nations prouverait au besoin, dans un ordre très élevé, cette immense pensée que Troubert représentait au fond du cloître sagacien. Saint-Firmin, avril 1832.